Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Un film engagé, chronique d'une misère sociale ou institutionnelle, donnant du grain à moudre pour les affamés et assoiffés de justice. Un film philosophique, sorte de conte existentiel, invitant le spectateur à vivre la crise de milieu de vie d'un homme mûr et posant la question de Dieu. Enfin, un film mystique, relatant rien moins que la vie de Jésus et posant la question au spectateur de sa divinité. Voilà en quelques mots le programme de l'émission de ce jour. Le grand écran de Vivante Église, c'est donc le rendez-vous de ce mois-ci, qui est décalé ce mois-ci, comme me le faisait remarquer Louis-Marie Solaire, parce que c'est bientôt le Triduum Pascal, et donc nous ne pouvions pas faire ça aux mêmes dates que d'habitude. Autour du plateau, il y a donc Louis-Marie Solaire, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma de Radio Présence le mercredi soir à 19h. Bonjour Louis-Marie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Voilà, en fait, je devrais vous faire répondre, et puis les gens devineraient au son de la voix qui vous êtes. Sophie Beauchamp, religieuse xavière et animatrice de retraite cinéma avec les centres jésuites Cotopaïs. Bonjour.
Bonjour.
Rapprochez-vous bien du micro parce que vous avez une petite voix et vous êtes donc là en remplacement de Paul Dima qui pour une fois est absent.
C'est ça.
Et voilà. Alors je le dis d'ores et déjà et je le répéterai. Pour rappel, cette émission est en partenariat avec Ciné-Parole, donc Ciné-Club qui se tient au cinéma L'ABC. Et le film à l'affiche dont vous allez parler le 27 mars prochain, c'est le film L'Ordre des Choses, un film de Andrea Segre. Alors, on n'a pas choisi ce film parce qu'il est en italien et on n'a pas trouvé de doublure en français.
Il n'a pas été
On s'est dit que ça allait être compliqué, mais est-ce que vous pouvez nous dire quand même quelques mots sur ce film ?
C'est un très beau film qui parle de migrants, mais du fait que maintenant, l'Europe et l'Italie en particulier, mais l'Europe dans son ensemble, la communauté européenne, sous-traite le problème des migrants avec les pays dont ils sont originaires ou par lesquels ils passent pour faire ces fameuses traversées. Et là, on voit justement un spécialiste, un policier italien qui va aller voir ce qui se passe en Libye et pour voir comment le gouvernement libyen applique ses règles et comment il utilise l'argent qu'on leur donne et comment sont traités les migrants.
Le Nouvel Observateur, un cadre glacial pour un drame brûlant et un grand film. Le journal La Croix, rarement un film nous aura aussi brutalement mis en face de nos propres choix. Donc un film à voir dans le cadre de Ciné-Parole, je redonnerai les horaires. On a choisi du coup, non pas un film de remplaçant, mais un autre film dont vous aviez parlé dans le cadre de Ciné-Parole. Allez-y, Louis-Marie, dites-nous quelle a été votre sélection.
C'est moi, Daniel Blake, le film de Ken Loach. Il se trouve que c'était notre première séance de Ciné-Parole quand on a lancé cette idée. Paul Dima en tête et Sophie aussi également. Et le film a obtenu la Palme d'Or. Mais c'est pas pour ça qu'on l'avait choisi, c'est surtout pour son sujet et la façon dont Ken Loach montre et fait des chroniques sociales dont il est le seul à avoir le secret. Car il n'y a pas beaucoup de réalisateurs en Europe et dans le monde à faire des films qui soient aussi près des gens, ces petits, ces 100 grades.
On va écouter la bande-annonce et puis après on va parler de ce film.
Bonjour Monsieur Blake, je vais vous poser quelques questions pour établir si vous pouvez prétendre à une pension d'invalidité. Pouvez-vous marcher plus de 50 mètres ?
Oui.
Pouvez-vous lever chacun de vos deux bras comme pour mettre quelque chose dans votre poche ?
Oui, je peux vous poser une question. Vous êtes médecin ? J'ai simplement fait une sérieuse attaque. D'après ce que m'a dit mon médecin, je suis pas censé retravailler pour le moment.
Vous devez continuer à chercher du travail. Si vous y renoncez, durant 4 semaines, vos versements seront gelés.
Il y a forcément une erreur.
Si on vous a estimé apte au travail, alors votre seule option, c'est demandeur d'emploi.
Bien, je veux faire appel.
Vous devez postuler en ligne, monsieur.
J'étais charpentier. J'ai jamais touché un ordinateur de ma vie.
Il faut glisser la souris jusqu'en bas de l'écran et cliquer. Non.
Pas comme ça ?
Non, pas comme ça.
Je me vois tourner en rond sans avancer.
Je vous demande
J'essaie
de vous en
aller, ça suffit. Ma situation et vous vous en foutez. Il me reste pas un rond dans mon porte-monnaie.
C'est vous qui faites une scène, d'accord ?
Nom de Dieu !
Que je fasse ?
Qui est le prochain à passer ?
C'est moi.
Ça vous dérange si cette jeune mère s'inscrit avant vous?
Non, non,
allez-y. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous prier de sortir tout de suite.
C'est une vaste blague, tout ça, non? Chercher un travail qui n'existe pas, tout ça est totalement humiliant. Il n'y a rien dont tu puisses avoir honte. Toute seule ici avec deux gosses, t'as fait des miracles.
J'en ai vu beaucoup d'autres. Des gens vraiment bien. Ils ont fini à la rue. Vous risquez juste de tout perdre.
Je ne vais pas laisser tomber. Quand c'est votre dignité que vous êtes en train de perdre, vous êtes foutu.
Voilà, moi, Daniel Blake, film donc de Ken Loach, je disais donc Chronique sociale, c'est un peu donc une des... Enfin, c'est le cinéma, la spécialité de Ken Loach. On pourrait dire quoi? C'est le Zola du 21e siècle pour l'Angleterre?
On pourrait dire ça, oui, d'une certaine façon. Il a eu une...
Cinéma réaliste, donc, je ne sais pas si on appelle ça comme ça.
Non, on ne parle pas de cinéma réaliste, le social, c'est ce qui convient le mieux. Mais en tout cas, c'est ce cinéma social qui a des allures de documentaire. C'est du cinéma de fiction, mais avec une telle façon de regarder, une telle aptitude à regarder les gens, ce regard si précis que ça pourrait passer pour un documentaire, oui. En l'occurrence, avec le sujet que traite ce film.
L'histoire, Louis-Marie.
Ben, c'est l'histoire de Daniel Blake. C'est le titre du film, Moi, Daniel Blake. C'est un menuisier qui est veuf depuis pas mal de temps. Il a 59 ans, donc... proche de la retraite, et il est victime d'un accident cardiaque. Alors il va être obligé pour la première fois de faire appel à l'aide sociale. Alors d'un côté, ses médecins lui interdisent de reprendre le travail parce qu'il a eu un accident cardiaque grave, et de l'autre côté, puisque en Angleterre c'est comme ça maintenant, c'est-à-dire que tout ce qui relève des aides sociales, les job centers, sont gérés par des entreprises privées. Donc ces entreprises veulent gagner de l'argent en fait, en tout cas au moins ne veulent pas en perdre. Et ils chassent les tirs au flanc. Donc tout est fait de façon à ce que les gens qui viennent pour réclamer quelque chose, une aide en particulier, eh bien soient mis en porte-à-faux. Et c'est ce qui va arriver à Daniel Blake. Sa quête pour avoir une aide auquel il a droit, eh bien ça va devenir quelque chose d'ubuesque, quoi. On va marcher carrément sur la tête.
Et il rencontre donc une femme.
Dans cette quête, il rencontre une femme. On l'a compris dans l'extrait, qui s'appelle Cathy. Elle qui a dû quitter la ville dont elle est originaire, qui est à 450 kilomètres de là, pour venir à un endroit qu'elle ne connaît pas du tout, mais pour avoir un logement social, parce que là-bas, sinon, elle aurait été en foyer. Mais si elle avait été en foyer dans sa ville d'origine, elle aurait perdu la garde de ses enfants. Donc, pour garder ses enfants, elle a fait ses 450 kilomètres. Et comme ça, elle arrive à Londres, et elle est... Non, c'est pas Londres. Elle est complètement perdue, et elle arrive en retard, et c'est ce qui fait qu'elle va perdre son indemnité pour 4 semaines, parce qu'elle est arrivée 5 minutes en retard, mais elle ne connaît pas les transports en commun, mais elle ne connaît pas la ville, mais les gens auxquels elle a affaire s'en fichent complètement.
Alors, Sophie Beauchamp, vous avez vu le film, vous considérez qu'il y a, enfin, il y a peut-être un fil important à tirer dans ce film-là, comme semble-t-il dans un certain nombre de films de Ken Loach. Dites-nous lequel.
Alors, Louis-Marie disait tout à l'heure que Ken Loach a une aptitude à regarder les gens, ce que ne font pas les administratifs. Et là, on est vraiment, ce film-là nous donne vraiment à voir... à la fois la petitesse de ces gens et la manière dont ils sont considérés par l'administration notamment comme des riens, mais par le regard de Ken Loach, ils deviennent ce qu'ils sont, des hommes qui ont une dignité, qui se battent pour garder cette dignité et qui ont une beauté vraiment là, dans la relation qui se construit entre Daniel et Cathy et les deux enfants, dont j'ai oublié les prénoms, donc une fille et un garçon. Il y a vraiment quelque chose de très fort, de très beau. Et puis il y a aussi avec les voisins, enfin voilà, il y a quelque chose au niveau de la relation qui est montré. Et à travers le regard de Ken Loach, on retrouve la dignité des personnes que l'administration, voilà, en tout cas dans ce film-là, tend à nier ou en tout cas à oublier.
Louis-Marie, vous avez un petit commentaire juste donc sur ce regard qui relève, c'est presque chrétien ça.
Oui. Et qui les rend humains. C'est pas, sont pas des, ils quittent pas, sont pas des clients parce que maintenant on les considère comme des clients puisque c'est devenu une entreprise privée. Sont pas des animaux, sont pas des usagers, sont des hommes, des citoyens tout simplement, des citoyens que ce soit cette femme, que ce soit cet homme et puis tous les autres qui attendent. Il faut les traiter comme ça. Et c'est ce qui est bouleversant aussi, c'est que ces personnages ne perdent jamais leur dignité. Jamais, à aucun moment. Ils sont toujours, toujours debout.
On va faire une première pause. J'allais dire que ça me rappelle un livre de Florence Aubenas, Le Quai d'Ouistreham, c'est ça hein,
je Oui, d'Ouistreham.
Si je prononce
oui,
très bien.
C'est ça.
Où donc cette grande journaliste qui a été faite prisonnière et qui était allée, je crois, dans la banlieue de Caen pour prendre le travail d'une femme de ménage travaillant dans les ferries, se faisant passer pour elle. Et on lui avait dit, quand elle est arrivée pour dire qu'elle cherchait du travail à son âge, on lui avait dit « Vous êtes vous, madame, vous savez, vous êtes le fond de la casserole. » Voilà. Donc comme quoi, peut-être que les difficultés ou les défauts de l'administration, d'une certaine administration, passent la manche. On va faire une première pause et puis on va vous retrouver pour parler cette fois d'un conte philosophique. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. La Sapienza. Le grand écran de Vivante Église, donc le rendez-vous cinéma de ce mois, avec autour du plateau Louis-Marie Solaire, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, émission cinéma sur Radio Présence le mercredi soir à 19h, et Sophie Beauchamp, religieuse Xavière. Voilà, religieuse Xavière, c'est les religieuses chez les jésuites, c'est ça? Ou une des familles spirituelles chez les jésuites.
C'est ça, c'est voilà. Plus juste de dire ça.
Et animatrice de retraite cinéma avec les centres jésuites Côte aux Pays qui sont présents dans le sud-ouest. Deuxième film, La Sapienza. Donc là, on rentre, pour rappel, après normalement le film à l'affiche, qui est ce mois-ci L'Ordre des Choses, faut pas que j'oublie d'en parler, mais qu'on n'a pas gardé parce que il n'est qu'en italien, enfin il n'y a pas de doublure en français, donc c'était un peu compliqué du coup à la radio. Deuxième film, le chef-d'œuvre humaniste que vous avez choisi avec Paul Dima, Louis-Marie, quand on a fait notre liste de l'année, c'est donc La Sapienza. Alors, on va peut-être commencer par écouter très rapidement la bande-annonce. C'est pareil, comme elle est en italien, on va l'écouter rapidement. Mais ça nous mettra un petit peu dans l'ambiance du film et après, on résumera l'histoire.
Je suis fier de donner ce cordeau d'or pour l'ensemble de son œuvre à Alexandre Schmidt.
cosa è cominciata quando era molto piccola. Poi arriva un malore o una sincope, seguiti da un periodo di spossatezza.
Le malattie di spossatezza sono cessate nel 1914.
Mia sorella non è stata avvertita.
Noi partiamo domani per Roma.
Io resterò qui. Fino a che Lavinia non si sia ristabilita.
Voilà, on va pas prolonger parce que peut-être que certains parlent italien, mais tout le monde ne parle pas italien quand même. L'histoire, donc, il me semble que le personnage principal est un certain Alexandre, voilà, marié à une Aliénor. Voilà, Alexandre donc est architecte, un architecte fameux. Il est donc primé, c'est ce qu'on entend au début du film, pour toute sa carrière. Et il y a une très belle scène où au moment où il est primé, on voit sa femme qui a le visage qui passe d'une expression très heureuse au sentiment du drame qui arrive. Cet homme, on va dire, traverse une période de dépression, enfin c'est l'impression que ça donne, en tout cas de crise existentielle, sentiment de vide. Et il finit par partir sur les traces de Borromini, voilà, donc grand artiste, grand architecte italien du XVIIe siècle. Le couple part. L'ambiance est plus que froide. On sent que ce couple s'éloigne très profondément. Et il croise donc deux jeunes gens. Je vais vous laisser dire les noms parce que j'ai du mal avec les prénoms aujourd'hui. Louis-Marie.
Le jeune homme s'appelle Goffredo et sa sœur, la jeune fille.
Lavinia. Voilà, et ce jeune couple, cette rencontre assez inopinée va permettre à ce couple âgé de se relever, de vivre comme une expérience initiatique à l'envers. Pour l'instant, on ne va pas en dire davantage. Comment vous compléteriez la présentation de ce film, Louis-Marie ?
C'est pas facile, c'est une question délicate. Parce que vous l'avez bien situé, c'est un homme et plus largement, enfin l'homme et sa femme, cet homme est en crise et le couple est en crise. Et ce voyage, vous l'avez signalé aussi, la femme a accompagné son mari, mais pour son mari, c'est un aboutissement. Il a reçu une récompense prestigieuse, le Cordeau d'Or, donc reconnu par ses pairs. C'est une récompense extraordinaire. Et il est dans ce moment où il est un moment où il bascule dans la vie. C'est-à-dire que d'une certaine façon, d'un point de vue professionnel, il n'a plus grand chose à prouver puisque il a été adoubé par ses collègues. Mais dans sa vie familiale, dans sa vie de couple, là c'est beaucoup plus difficile. Alors si on peut résumer le propos de Jane Green, c'est que il fait ce parallèle avec l'architecture. L'architecture, c'est un architecte, sert à créer des espaces pour accueillir la lumière qui est nécessaire au bonheur. Et voilà, donc lui, il crée ces espaces où il y a de la lumière, mais par contre, dans son couple, il n'y en a pas.
Dans sa vie même, peut-être.
Oui.
Ça manque de lumière intérieure, en tout cas. Est-ce qu'on peut dire un mot avant d'écouter d'autres extraits ? C'est un film quand même très spécial. Moi, quand j'ai commencé à le lire, j'ai presque eu l'impression de lire un livre, je me suis dit, qu'est-ce qu'il aura appris, Louis-Marie et Paul Dima ? Là, on va perdre tout le monde. Il y a des scènes... D'abord, c'est assez surjoué.
C'est volontaire.
On a l'impression que c'est comme un...
C'est le style baroque.
C'est des scènes assez caricaturales. Alors pourquoi cette manière de filmer ?
Mais il prend tout le contre-pied, Eugène Green, tout le contre-pied qu'on espère trouver au cinéma. C'est-à-dire qu'à la place de la fluidité, c'est ce qu'on aime. On aime que les histoires soient fluides, qu'on soit emporté par l'histoire. Là, on peut pas être emporté. Il faut faire l'effort de rentrer dans cette histoire.
C'est très séquentiel.
Et c'est-à-dire qu'il préfère la rupture, justement, à la fluidité. Puis il choisit des cadrages particuliers. Effectivement, ce sont des tableaux. Et puis les compositions, les plans sont très élaborés au niveau des compositions. Puis dans leur composition, pardon, c'est
C'est très lent.
C'est très lent. On voit ces moments pour souligner combien le couple est en crise quand ils mangent. Et on les a de profil. On les voit manger très loin. Ils s'approchent pas. Ils échangent peu. Ils boivent en même temps. Reposent leur verre.
Bon, enfin, voilà, c'est très
particulier.
Rassurez-vous, c'est pas une émission des cahiers du cinéma, pardon, j'espère qu'ils nous écoutent pas, sinon on va se faire tirer les oreilles. C'est réalisé par un homme qui s'appelle donc Eugene Green, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cet homme? Je me suis plongé un peu dedans, donc c'est semble-t-il un homme de théâtre. Alors ça peut expliquer peut-être un petit peu le film. Et son plus gros succès, c'était 40 000 spectateurs, c'est
46.
Ça
46 000, je crois.
Voilà, pour Le Pont des Arts.
Alors, le Pont des Arts ou
la religieuse portugaise.
Ah, d'accord, moi j'ai parce vu entrer en Europe 12 000. Bon, bref, en tout cas,
La Sapienza, cinéma c'est confidentiel. Son cinquième film, oui, plus confidentiel. Oui,
donc vous connaissez un tout petit peu, vous pouvez ajouter deux, trois éléments ou...
C'est justement probablement sa culture théâtrale, du théâtre, qui fait qu'il a ce parti pris en particulier pour le jeu, d'un ton neutre, sans aménité. Bon, c'est très 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 monocorde avec des liaisons. Alors, il faut le voir en version originale parce qu'à certains moments, forcément, ils parlent en français.
De liaisons,
ils font des liaisons qu'on ne ferait pas.
Qu'on ne fait plus en tout cas.
On ne fait plus. Oui.
Mais dans une interview, il dit que c'est vraiment pour lui, c'est un choix et c'est un choix au niveau du sens du cinéma qui n'est pas la réalité. Donc pour lui, le fait de prendre cette diction-là, que ce n'est pas le langage courant forcément, ça signifie ça, entre autres, que le cinéma n'est pas la réalité.
Alors on va écouter un premier extrait qui va nous faire rentrer dans ce conte. J'avoue, je confesse que j'ai failli décrocher, mais que j'ai été pris après par l'histoire, parce que ce noue une intrigue vraiment très forte entre tous ces personnages. Donc là, c'est la femme d'un âge mûr dont je vais retrouver le
Aliénor.
Nom Aliénor, et d'un âge plus raisonnable Lavinia, qui se lie d'amitié. Donc elle est malade, il faut le préciser, la jeune fille, et Aliénor lui rend visite. Elle commence à l'interroger, cette femme est psychanalyste, et elle l'emmène au théâtre, et là elles sortent du théâtre où elles ont vu Le Malade Imaginaire de Molière, et elles commencent à une discussion, on va dire, cœur à cœur.
J'ai lu que quand il écrivait la pièce, Molière était réellement malade. Il est même mort en la jouant. Sa mort, c'est peut-être le sacrifice qui permet à son personnage de ressusciter.
Faut-il un sacrifice pour perpétuer la vie?
Je pense que oui.
J'essaie de me convaincre du contraire.
Le poids que nous portons, Gonfle et moi, ce n'est pas un secret dont on peut se délivrer par la confession.
Qu'est-ce que c'est alors?
C'est quelque chose qui a sa propre existence et qui s'est attaché à nous, comme un fantôme.
Je ne crois pas aux fantômes.
Pourtant, je suis certaine que vous croyez.
En quoi?
En quelque chose.
Je voudrais croire.
Vous croyez en l'amour, n'est-ce pas?
J'essaie.
Vous aimez votre mari?
Oui. Mais lui aussi porte quelque chose de très lourd. Et aucune confession ne l'en a jamais libéré. Quand je l'ai rencontré, il était plein d'énergie, très confiant. Mais je sentais en lui une blessure.
Cela se voit encore.
Oui. Avant que je le connaisse, il avait fondé son agence avec un associé, François. Ce garçon avait 2 ans de moins que lui, mais il était beaucoup plus artiste. Et Alexandre en était conscient. Il sentait croître en lui comme une maladie, la jalousie.
Comment savez-vous tout cela?
C'est Alexandre qui me l'a dit. François était fragile. Il buvait. Toutes ces histoires sentimentales étaient des échecs. Au lieu de chercher à l'aider, Alexandre ne manquait pas une occasion de le rabaisser, de l'humilier.
C'est toujours votre mari qui vous a raconté cela?
Oui.
Et alors?
Une nuit, François s'est tiré une balle dans la tête. Depuis, sa présence n'a jamais quitté Alexandre. Elle est plus forte que toute autre, même que la mienne.
Donc on voit qu'elles se connaissent depuis peu, mais elles rentrent rapidement dans le vif du sujet. Alors c'est vrai que ça paraît être un dialogue, bon, un peu peut-être suranné pour certains, ou comment dire, ou gênant. Moi en tout cas, ce que j'ai trouvé de très beau, j'allais faire une citation, mais je ne peux pas parce que je ne me souviens plus qui l'a dit, mais j'ai souvenir d'un, je me demande si c'était pas Emmanuel Mounier qui disait que il rêvait en fait que un monde d'une certaine manière justement ordonné, alors pardon pour ceux qui le connaissent, peut-être que ce n'est pas lui, un monde justement ordonné serait celui où on pourrait quelque part croiser un inconnu et avoir ce type de dialogue avec lui. C'est des dialogues en fait qu'on a très peu dans la vie, très rarement, sauf peut-être avec certains grands amis ou avec son conjoint, et encore. Et là, ils se connaissent à peine et ils arrivent à parler comme ça et à se livrer et à dire le fond de leur cœur. Il y a quelque chose de très beau là-dedans. Sophie Beauchamp, est-ce que vous avez un commentaire sur ce sujet avant qu'on déploie d'autres aspects du film?
Il y a quelque chose que Lavinia dit à propos d'Alexandre. Elle a vu son malaise et elle-même est malade. Et la relation qui naît entre elles, entre eux, entre les quatre personnages, vient du fait que Aliénor va porter secours à Lavinia qui fait un malaise. Donc il y a aussi déjà dans la fragilité, il y a une rencontre là. Et peut-être que la profondeur de leur relation naît aussi dans le fait que dans les deux couples, le frère et la sœur et le mari et la femme, on a vu une fragilité des deux côtés, on a vu une fragilité. Et comme vous disiez tout à l'heure, Aliénor est psychanalyste, elle va écouter Lavinia, mais Lavinia a vu aussi une fragilité dans le couple et elle se retrouve sur ce terrain là
on se rencontre souvent par le bas dans par la vie,
oui c'est ça.
Autre chose, alors c'est pas pour tirer la couverture tout de suite au message chrétien, mais on s'était dit en préparant le film qu'il y avait aussi quelque chose de profond, enfin d'étonnant dans ces deux jeunes gens. On a l'impression qu'ils croient. En fait, je le disais que c'est une espèce de conte initiatique à l'envers. C'est en fait ce jeune couple qui se fait interroger sur le sens de la vie par ces deux jeunes gens et qui les ouvre en fait à l'existence d'un absolu, d'une transcendance. Comme là, elle commence à l'interroger sur l'amour. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce que vous avez lu de chrétien dans l'attitude en fait de ces deux jeunes?
Alors déjà, dans le Goffredo qui se prépare à être étudiant en architecture, il est passionné par les constructions et son objectif, il le dit, je vais essayer de retrouver ce qu'il dit exactement, voilà, c'est de créer des espaces pour... Alors des espaces ne sont pas des creux qu'il faut remplir de lumière et de gens. Et alors, il montre à un moment à Aliénor une ville qu'il a, une maquette, et au centre, il y a un temple. Et un temple qui doit solliciter la présence, en tout cas, rendre présent la présence. Et il y a quelque chose là l'attitude de Goffredo et dans son aspiration qui réveille. On parlait d'Alexandre tout à l'heure. Alexandre a un énorme vide. Et au départ, il dit qu'il n'a pas construit de cathédrale et que les cathédrales du temps moderne, ce sont les usines, et que l'homme se sauve par son travail.
Et il dit au début qu'il est matérialiste.
Voilà, c'est ça. Je suis matérialiste, l'homme se sauve par son travail. Et là, dans la rencontre avec Lavinia et Goffredo, alors c'est une transmission à l'envers, justement, il se rend compte que finalement, il y a autre chose. Et c'est ce qu'il cherche, Alexandre. Le vide qu'il habite, il va trouver
La réponse.
La réponse, oui.
Je propose qu'on écoute un deuxième extrait. Oui. Alors, pardon, on déflore un peu le film, mais bon, c'est un peu le jeu. On va découvrir, en fait, on va entendre ce qu'il découvre dans ce conte initiatique, dans ce film, et puis je vous laisserai commenter derrière.
Ton voyage s'est-il bien passé?
Oui. Finalement, c'est moi qui ai fait un voyage d'études.
Qu'as-tu appris ?
Ce que je sais est inutile.
Se débarrasser de l'inutile, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile.
Oui. Et on n'y arrive pas tout seul.
Vers quoi veux-tu aller ?
Je me croyais artiste, et je pensais être savant. Et la source de la beauté et l'amour. Et la source du savoir et la lumière. Quand on remonte aux sources, on trouve la sapience.
C'est un beau mot.
Oui. Mais quand beaucoup de choses, on l'a oublié.
Moi aussi, j'ai oublié beaucoup de choses. Je t'ai toujours aimé, Alexandre.
S'il me reste du temps, je voudrais t'aimer aussi.
Nous aurons peut-être le temps qu'il faut.
Si j'entrevois la sapience, je voudrais la transmettre.
Comment ?
En donnant un lieu à ceux qui cherchent la lumière.
À ma façon, je voudrais faire la même chose.
C'est par la lumière que nous aurons des enfants.
Voilà, donc magnifique scène où le couple se retrouve, se fait face, peut-être presque pour la première fois du film. Sophie Beauchamp, est-ce que vous pouvez juste nous... Sophie Beauchamp, est-ce que vous pouvez nous redire la phrase clé qu'il a dite, qui est comme la conclusion de ce qu'il a découvert ?
Alors, il dit qu'il veut aller vers... Alors, elle lui pose la question, vers quoi veux-tu aller ? Et il dit, la source de la beauté, c'est l'amour. La source du savoir, c'est la lumière. Et si on remonte à la source, aux sources, on trouve la sapience.
Voilà, la sapience, c'est donc qui... la sagesse.
Voilà.
Louis-Marie, pourquoi est-ce que vous considérez que c'est un chef-d'œuvre humaniste ?
Il y a justement dans ce film une très belle idée, c'est la façon dont Eugène Green conçoit la relation maître-élève. C'est-à-dire que la relation maître-élève, c'est une pédagogie réciproque. C'est-à-dire que le maître apprend à l'élève, mais il a autant à apprendre de son élève lui-même. Et c'est ce qui fait que Alexandre retrouve la foi dans son métier. Et ainsi qu'il retrouvera l'amour. Parce qu'on disait en début de commentaire pour ce film que il n'a plus grand-chose à prouver en tant qu'architecte, puisqu'il a été reconnu par ses pairs et qu'il a déjà obtenu la récompense suprême. Et là, il retrouve cet talent, il retrouve cette envie.
Il en trouve un nouveau, sens. Puisque...
Il trouve un sens, oui. Ouais.
Un nouveau sens. Sophie Beauchamp, vous n'êtes pas Paul Dima, mais pourquoi vous diriez que c'est un chef-d'œuvre humaniste et pourquoi est-ce qu'il faut persévérer au-delà du côté très spécial de ce film ?
Là, on voit bien que dans l'itinéraire à la fois de Alexandre et d'Aliénor, qui ont tous deux un poids, alors on l'a compris dans l'extrait.
On ne va pas tout raconter quand même. Mais, oui.
Mais que le poids d'Alexandre, c'est par rapport à son collègue, là. Et le poids d'Aliénor, c'est par rapport à une enfant qui est décédée. Mais ce poids-là a fait comme mur entre deux, et du coup, créant un vide. Et là, leur itinéraire, ils retrouvent un sens à travers cette épreuve-là qui reste, qui demeure. Eh bien, il y a quelque chose de la vie qui peut passer et qui peut traverser. Et là, on peut se dire, bon, c'est humaniste, c'est Pascal. Enfin, c'est voilà, il y a quelque chose d'un chemin Pascal qui se vit à travers quelque chose qui est de l'ordre de la mort. Et effectivement, il y a eu deux morts quand même. Il y a quelque chose de la vie qui est possible. Voilà, dans le consentement à ce que ça ait été comme ça, mais ça nous porte au-delà.
On va faire une deuxième pause et puis ensuite on va parler de Jésus de Nazareth, de Zeffirelli, film de 6 heures. Voilà, il faut seulement du travail de préparer les émissions Vivante Église. Heureusement qu'ils ne font pas 6 heures à chaque fois. Ils ne font pas 6 heures ces films. Voilà, on vous retrouve tout de suite.
Oh,
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand écran de Vivante Église, c'est donc l'émission de ce matin avec autour du plateau Louis-Marie Soler, producteur de N'oubliez pas l'ouvreuse, l'émission cinéma de Radio Présence, et Sophie Beauchamp, religieuse et animatrice de retraite cinéma avec les centres jésuites Cotopaïs. Nous allons parler maintenant donc de Jésus de Nazareth, de Zeffirelli, chef-d'œuvre spirituel. Franco Zeffirelli, sorti en 1977. C'était donc une mini-série télé italo-britannique de 6 heures et 16 minutes. Des films sur la vie de Jésus, il y en a eu, mais c'est peut-être, on va dire, un des trois qu'il faudrait garder, ne serait-ce que par curiosité intellectuelle, puisque ce film, vous allez préciser mon propos, Louis-Marie, a été plus ou moins réalisé sur une demande du pape Paul VI. Place a été faite à la créativité de cet artiste qui n'a pas été contraint, c'est pas le film du Vatican, mais en tout cas on peut dire que c'est très proche des évangiles.
Oui, le film est une coproduction italo-britannique, hein, ce qui explique le côté international de la distribution et que l'acteur qui interprète le rôle de Jésus est anglais. On reviendra là-dessus. C'est quand même, pour l'époque, la fin des années 70, pour le sujet aussi, le film bénéficie d'un budget considérable, 10 millions de dollars, pour donner un équivalent. À la même époque, Spielberg tournait Rencontre du troisième type, qui est tourné avec 20 millions de dollars. Donc vous voyez, on est à la hauteur de super productions hollywoodiennes, c'est le cas. On a demandé à Zeffirelli de réaliser le film parce que il est devenu... On va passer sur sa carrière, mais il est devenu un grand metteur en scène, un grand réalisateur italien. Et il avait déjà réalisé dans les années 70, un peu avant, François et le chemin du soleil. C'est un film qui s'inspire de la vie de François d'Assise. Et donc il va persévérer dans ce cinéma qu'on peut qualifier de chrétien, en se lançant dans le travail, d'un travail de longue haleine, vous l'avez dit, parce que le film, au départ, c'est une série en 6 épisodes qui sera diffusée simultanément aux USA, en Grande-Bretagne et en Italie. Et il y a fallu un long temps de préparation, puis après il a été tourné en extérieur, ça n'a pas été pour la plupart tourné... pas en studio, donc il a fait des repérages, ça a été tourné au Maroc, en Tunisie, essentiellement donc dans des décors naturels, avec le soutien de la télévision italienne, et un grand producteur anglais qui s'appelait Sir Lou Grade, puisqu'il avait été anobli par la reine.
Succès considérable, 27 millions de spectateurs j'ai vu en Italie, et 2,5 milliards dans le monde.
Oui.
En tout cas au moment de la sortie, et puis après on imagine quand même, c'est un film, on va dire, planétaire. Il y en a quelques-uns. Juste un mot du casting, c'est pas forcément le propos, mais quand même ça aide peut-être à ce que ça soit un grand film.
Ah oui, c'est alors là on peut parler d'une quantité considérable de stars et de guest stars, hein, vraiment. Finalement l'acteur le moins connu, c'est celui qui interprète Jésus, c'est le personnage principal, c'est puisque c'est Jésus de Nazareth. L'acteur s'appelle Robert Powell et il était en particulier plutôt spécialisé dans le... On l'a vu surtout dans des productions fantastiques. Pour illustrer, je vous donne les titres des films. L'Esprit de la Mort, Le Survivant d'un Monde Parallèle, Harlequin, donc on voit, et il devient donc Jésus de Nazareth devant la caméra de Zeffirelli. Alors après, c'est là, c'est les guest stars qui sont là. Christopher Plummer, qui joue le rôle d'Hérode, Ian Holm, celui de Zera, Michael York, qui joue le rôle de Jean-Baptiste, d'ailleurs assez étonnant, Rod Steiger, Il était une fois la Révolution, vous vous souvenez, Sylvie, qui lui joue le rôle de Ponce Pilate, et puis il y a même Laurence Olivier, en Nicodème, il y a James Mason en Joseph d'Arimathie et Ernest Borgnine en Centurion romain, sans parler des stars qui font une apparition comme Claudia Cardinale qui joue le rôle d'une prostituée.
Ouais.
Et qui traverse l'écran. Hein.
Alors, la femme adultère.
L'histoire est assez facile à résumer puisqu'en gros c'est l'histoire de Jésus. Hein. Ce Jésus de Nazareth qui va jusqu'à la résurrection, il faut aussi le dire, parce que tout le monde a en tête peut-être un film plus récent qui est La Passion de Mel Gibson, qui lui abordait de manière assez elliptique la résurrection. Qu'est-ce que vous diriez comme autre mot d'introduction avant qu'on écoute un premier extrait, Sophie Beauchamp?
Peut-être la...
À voir, donc... absolument.
Oui, alors moi je l'ai revu parce que je l'avais vu, j'étais ado en fait. Et j'en avais entendu parler comme étant un film, oui, c'est pas mal, mais c'est Zéphirelli, quoi. Et finalement...
C'est Zéphirelli, quoi? Ça veut dire quoi?
Ben, c'était... Je sentais une petite dévalorisation, quoi, par rapport à Pazzolini, voilà, qui est un autre style, vraiment un autre style. Et en fait, du coup, je me suis... j'ai vu les 6 heures, bien sûr, et j'ai plutôt été agréablement surprise d'un film qui touche au cœur. Voilà, on marche avec Jésus. Il y a quelque chose d'une proximité, ce qu'a voulu sans doute Zeffirelli. On le voit vivre. Il n'y a pas trop d'effets cinématographiques. Mais du coup, c'est comme si on ouvre l'évangile et on le suit, quoi. Voilà. Il y a quelque chose d'une expérience spirituelle assez, assez forte, finalement.
On va écouter un premier extrait. Ce premier extrait, c'est Jésus qui se lève dans la synagogue de Nazareth pour lire les Écritures et qui inaugure donc son ministère public.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres ceux qui sont opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur.
Amen.
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accompli.
Mais qui est-ce? C'est le fils de Joseph. Les Écritures sont accomplies? Il a bien dit accompli.
Mais comment ose-t-il dire une chose comme celle-là? Que veux-tu dire par là? La prophétie que tu as lue ne peut être accomplie que par la venue du Messie.
Oui, par la venue du royaume de Dieu.
Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. Le royaume des cieux, voici qu'il est au milieu de vous.
Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il faut faire taire ce fou!
Rabbi, mets les saintes écritures hors de sa... Voilà, on va couper plus tôt que prévu. Le commentaire que ça m'inspire, Sophie Beauchamp et Louis-Marie Solaire, je me suis dit en regardant le film que de même que quand on va en Terre Sainte et on ne lit plus après les évangiles de la même manière, alors le parallèle est peut-être un peu excessif, parce qu'on voit le lac de Galilée, parce qu'on voit le Golgotha, parce qu'on voit à quoi ressemblait peut-être la grotte supposée du lieu d'apparition, ça met vraiment de la chair en fait sur un texte qui sinon paraît juste être un texte religieux. Pour ceux qui n'iraient peut-être pas en Terre Sainte, ça met aussi de la chair. En tout cas, là, on se rend compte, par exemple, que vraiment, c'est une folie de croire qu'un homme, qu'un homme est le Messie. Mm. On voit bien, en tout cas, l'objet de contradiction qu'il peut être.
Oui. Dès le départ, donc là, c'est le discours inaugural dans les évangiles. C'est vraiment le discours inaugural de Jésus dans sa vie publique. Et là, on voit bien la tension qu'il y a avec les pharisiens. On ne peut pas, ils ne peuvent pas entendre. Et Zeffirelli, dans le film, très souvent, il y a à la fois, Jésus s'inscrit complètement dans l'écriture et dans la tradition, dans le judaïsme, et en même temps, il apporte une nouveauté qui est intolérable. Ça leur pose question, vraiment, ça leur pose question. Et là, on voit bien, mais qui c'est ? Il ne peut pas dire ça, c'est le Messie qui vient. Mais du coup, le royaume de Dieu devrait être là, mais
c'est
il n'est pas là.
C'est le fils du charpentier.
Voilà, c'est le fils du charpentier. Et c'est vraiment la confrontation entre la nouveauté qu'apporte Jésus et...
Alors, comment vous la qualifieriez, cette nouveauté ? Vous me disiez, c'est la différence entre
oui,
la lettre
alors,
et l'esprit.
Alors, il le dit à un moment, il y a un discours après, c'est, il dit, la loi n'est pas écrite sur des pierres. Et la loi est vivante. Donc, la loi est écrite dans le cœur. Il reprend une citation de Jérémie. Mais alors, pour eux, c'est comme si on venait changer la loi. Et la loi ne peut pas être changée. Mais Jésus, non, la loi n'est pas changeante, mais elle est vivante. Et ça, il y a quelque chose, ça fait bouger les lignes. Et ils ont peur de bouger les lignes en disant aussi, la loi, c'est ce qui tient notre peuple. C'est, sans la loi, on n'est pas un peuple. C'est notre sécurité. Donc toi, il lui pose la question, mais jusqu'où es-tu prêt à respecter la loi ? Parce qu'ils il ne respectent pas le sabbat. Alors même si ils disent, mais le jour du sabbat, s'il y a quelqu'un je travaille pour la vie. Oui, on te comprend, mais quand même, ça nous trouble. Et puis les âmes simples, comment elles vont s'y retrouver ?
Donc, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, parce qu'évidemment, on voit Hérode, on voit Jean-Baptiste, les disciples, Pierre, enfin, il y a plein de scènes qui sont magnifiques. De fait, là, pour le coup, je pense qu'on peut facilement s'accorder pour dire que c'est un chef-d'œuvre. Peut-être le fil qu'on a choisi de garder, c'est celui-là, qui n'est pas forcément dans l'évangile. C'est une espèce de tendresse pour Zéphir et Lie, pour ce peuple juif, et montrer que les questionnements de ce peuple juif étaient plus subtils que peut-être l'image qu'on peut en avoir. Quand on lit les évangiles, on se dit que vraiment ils avaient rien compris.
Oui.
Et c'était vraiment une bande d'abrutis pour faire extrêmement caricatural. On va écouter un deuxième extrait qui n'est pas justement un passage de l'évangile où Jésus en fait se retrouve devant le grand Sanhédrin, donc juste avant sa condamnation. Voilà, et t'imagines cette scène où Jésus est convoqué la nuit chez le grand Sanhédrin. Enfin, on sait que ça s'est passé, mais on ne sait pas ce qui s'est dit.
Ce qui s'est dit exactement.
Et voilà. Et là, c'est la conversation qui est rapportée entre les sages du temple, autour du grand prêtre du temple,
Caïphe
et Jésus.
Caïphe, je l'ai entendu prêcher. Je n'ai pu relever quoi que ce soit dans sa doctrine qui renie les principes de base de notre foi.
Rabbi, nous avons quelque peine à saisir le sens de certaines paroles que tu prononces.
Par exemple, des témoins racontent que tu as déclaré devant eux que tu pouvais détruire le temple et le rebâtir en 3 jours.
Oh, personne ne pourrait rebâtir un temple en 3 jours. Les paroles qu'il a prononcées doivent avoir une valeur symbolique. Ne prononce pas...
Je suis sûr qu'il a dit qu'il pouvait rebâtir la maison de Dieu en 2 jours.
2 jours, 3 jours, vous avez entendu. Les témoins ne sont même pas d'accord.
Comment pouvons-nous nous rappeler chaque détail ? Il y avait une émeute que Jésus lui-même avait provoquée, mais dont les Romains ne manqueront pas de nous rendre responsables.
L'émeute a été provoquée par Barabbas.
Mais les Romains n'ont pas besoin de prétexte. Nous savons ce qu'ils ont fait ici. Nous qui sommes ici avons encore en mémoire ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps dans ce pays. Quand plus d'un millier de nos pauvres frères ont été cloués sur les murs de Jérusalem parce qu'il n'y avait pas assez d'échafauds pour satisfaire la soif de sang des Romains. Aucun de vous, j'en suis sûr, ne veut offrir d'autres victimes à Ponce Pilate, si on peut l'éviter.
C'est évident, Joseph. Nous sommes tous d'accord sur ce point-là. Ainsi que Caïphe l'a dit, ceci n'est pas un procès.
Cette nuit, nous avons quitté nos demeures et sommes venus ici, dans l'espoir que Jésus de Nazareth nous expliquerait le but profond de sa mission et aiderait à effacer les divisions au sein de cette communauté.
Mon frère, tu répètes souvent, je crois que tu es venu pour apporter amour et fraternité. Alors je t'en prie, ramène la paix dans notre assemblée ce soir.
Dis-moi, on rapporte que quand tu prêches, tu prétends être le Fils de Dieu. Alors je te le demande, au nom de l'Éternel, es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?
Je le suis.
Voilà, le temps presse, donc on va couper plus tôt que prévu. J'ai choisi cette scène aussi parce qu'il me semble que tout l'intérêt de voir ce film, que l'on soit croyant ou pas, c'est qu'à un moment, le spectateur est amené à se positionner, non ? Peut-il être le Fils de Dieu ? Puisque d'une certaine manière, c'est presque l'évangile mis en image, on se retrouve comme convoqué en fait à se poser la question. Louis-Marie Soler, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ce qui est justement le plus intéressant dans le film de Zeffirelli, c'est ce dont on vient de parler, ce dont vous venez de parler, Emmanuel. Parce que bon, on passe sur les épisodes de l'évangile classique qui sont le plus souvent maladroits. Enfin, quand je dis classique, les miracles, la résurrection de Lazare, tout ça, c'est pas le plus réussi dans le film. Par contre, ce qui est réussi, c'est les échanges de points de vue. En quoi les enseignements de Jésus étaient en leur temps révolutionnaires et dérangeants. Voilà, ça c'est ce qui est intéressant. La discussion qu'on vient d'entendre dans Sanhédrin, par exemple, le procès face à Pilate aussi, et puis le sens de certaines paraboles ou les prêches de Jean-Baptiste, par exemple. Hein. Et tout ça, c'est mis en lumière par la mise en scène et ce côté... cette volonté de Zeffirelli de montrer ça et de l'illustrer. C'est dans ce sens-là que son film, là, pour le coup, est un chef-d'œuvre.
Eh ben merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église pour nous présenter ces trois films. Louis-Marie Soler, vous allez nous les rappeler. Les trois films, c'était...
Eh bien, c'était moi, Daniel Blake, le film de Ken Loach, La Sapienza, d'Andrea...
Eugène Green,
je pensais à l'ordre des choses. Moi. Et puis Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli.
Voilà, merci beaucoup Louis-Marie de m'avoir servi d'antisèche. C'est la fin de semaine, je suis un petit peu fatigué. L'ordre des choses, donc, de Andrea Segré, c'est donc mardi 27 mars, deux séances, 14h30, 20h30, avec le cinéma Ciné-Parole, du cinéma L'ABC à 14h30 avec Paul Dima, et le soir à 20h30 avec le célébrissime Louis-Marie Soler. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi. Thank you.